Aujourd'hui, nous sommes le 25 Tevet, le lendemain du 24 Tevet, la date où l'Admor HaZaken est parti de ce monde. Et on sait que l'Admor HaZaken, il a beaucoup, beaucoup souffert à la fin de sa vie. Ça veut dire qu'il était poursuivi personnellement par Napoléon, comme beaucoup d'autres d'ailleurs.
Personnellement, bien sûr.
Il y a des traces historiques, ce que je vous dis, hein, c'est pas stable, on raconte ça comme ça. Et il a dû s'enfuir. Il a dû s'enfuir en Russie, dans la Russie très très profonde, en Ukraine, dans un endroit où il faisait tellement froid qu'avec un hiver, quand je vous dis là-bas l'hiver, c'est pas moins 2 ici. Ah ouais, ici, moins 2, on est là en train de trembler. C'est, là-bas, on parle des moins 30, moins 40, minimum.
Et pourquoi on voulait
Oh, c'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. Et bonsoir.
Je suis pas en retard.
Non, c'est une demi-heure qu'on a commencé.
Alors, c'est au désert, hein, monsieur. J'ai pas vu le temps passer.
Bonsoir, monsieur Benita.
Bonsoir tout le monde.
On a commencé, hein.
Bonsoir,
alors.
J'ai une question là pour vous.
Voilà. J'étais sûr.
Et tant que vous étiez d'accord, on pourrait commencer par une question.
Alors, et donc, je disais que l'Admor HaZaken, donc à la fin de sa vie, il a dû s'enfuir avec toute sa famille. Ils ont affronté l'hiver. Et l'hiver était tellement rude qu'il en est tombé malade et qu'il est décédé relativement jeune. Il n'était pas malade avant. Il est décédé du froid, tellement le froid était insupportable. Et il est enterré à la ville de Haditch. Et hier soir, justement, je racontais que dans la ville de Haditch, où l'Admor HaZaken est enterré, c'est un endroit où il fait très très froid. Là, maintenant, vous regardez, il fait moins 30, moins 40, entre moins 30 et moins 40. Et j'ai des amis qui sont partis là-bas. Ils m'ont raconté que ce Shabbat, c'est Abba Shabbat, et ce Shabbat, il a fait tellement froid que même le courant là-bas, il a sauté. Le courant et l'électricité. Et parce que vous savez, il suffit qu'il y a du verglas, de la glace, etc. Bon, voilà. Il suffit qu'il y ait un caténaire qui lâche, etc. Bon. Et donc le courant a lâché, donc ils se sont retrouvés à aller dans le kever de l'Admor HaZaken avec des bougies. Je ne sais pas si vous imaginez la scène, avec des bougies, moins 30, moins 40. C'est pour dire que l'Admor HaZaken. L'Admor HaZaken. Ah non, mais je t'expliquais, les amis qui sont partis là-bas, ils m'ont dit comme ça. Ils m'ont dit, tu sors du mikvé, tu vois le mikvé?
Ouais,
tu sors du mikvé. Si te reste un peu d'eau dans la barbe, bah, dis-le congeler tout de suite.
Ah oui, je savais,
tout de suite.
40,
ah, mais bien sûr.
Un congélateur, c'est moins 18, un congélateur.
Tout de suite, c'est-à-dire, tout de suite. Tu sors, pas que c'est congelé.
Comme la boutonnée.
Mais exactement. T'es... Le nez, bien sûr, voilà. Ma mâche comme ça.
Ça crie, ça vient.
Donc la ça c'est pour nous dire que l'Admor HaZaken il est enterré dans la ville de Haditch. C'est une ville où il y a pas de communauté, il y a pas de synagogue. C'est s'il vous plaît. Messieurs. On va vous changer de place, hein. Alors.
Ah oui, c'est vrai.
Comment Nicole.
Ils sont retrouvés. Et donc l'Admor HaZaken il est enterré là-bas dans un endroit où il n'y a pas de communauté, etc. Alors maintenant les gens vont pèleriner, mais c'est très très loin, c'est très très loin. Et donc c'est pour ça que c'est une occasion particulière que nous, quand on est là en France, on est installé dans un Beit Rabat, en train d'étudier la Torah, pensez à avoir une kavana particulière pour l'Admor HaZaken. Il n'a pas besoin de nous, l'Admor HaZaken, où il est au Gan Eden, il n'a pas besoin de nous, mais c'est quand même important de penser à lui et de demander à Kadosh Baruch Hu que par son mérite, on ait tout ce qu'on ait besoin pour nous, matériellement, spirituellement, bané, chayé ou maisonné, les enfants, la santé, la parnassa. Ça, c'était pour la Yulot d'Admor HaZaken le 24 Tevet, donc on est le lendemain du 24 Tevet. Bien sûr. Et ce que je dis, c'est que l'endroit où il a été enterré, voilà, c'est un trou. C'est ma mâche, un trou, hein, il n'y a rien. Il y a des voyages organisés, voilà. Alors, là il fait très froid maintenant. En fait, en général, les voyages organisés, ils ne les font pas maintenant.
Ah d'accord, oui.
Parce qu'en fait, je vous explique. Il y a le voyage pour les durs et il y a le voyage pour les moins durs. L'Admor HaZaken, il y a deux dates qui sont liées à lui. Il y a trois dates. T'as le 18 Elul, c'est la date où il est né. Le 24 Tevet, c'est en plein hiver, c'est la date où il est niftar. Et t'as le 19 qui se lève, c'est la date où il a été libéré de prison. Alors ceux qui ne veulent pas aller quand il fait trop froid, ils vont au 18 Elul. Avant Rosh Hashanah, c'est la fin de l'été. Bon, c'est la date de sa naissance. C'est là, bon. Là, ça passe, tu vois. Là, voilà. Là, ça passe. Mais quand tu vas maintenant, c'est l'hiver russe profond, c'est profond. Voilà. Bon. Alors, reprenons le sujet qu'on a commencé la semaine dernière. On est à la page 158. Razak. On a expliqué que bien que la Torah est très importante, l'étude de la Torah, rappelez-vous le débat éternel qu'on a lancé la semaine dernière et la semaine d'avant, à savoir, messieurs, qu'est-ce qu'il faut privilégier entre l'étude et l'action? Vous allez me dire les deux, mon capitaine, mais je vous réponds qu'il y a des cas, il arrive parfois, qu'on ne peut pas faire les deux. Il y a des situations dans lesquelles il faut choisir entre l'étude et l'action. Alors, lequel on prend? Alors, il y a deux cours, on avait expliqué l'importance de l'action. L'action. D'un autre côté, dans le cours de la semaine dernière, on a expliqué l'importance de l'étude. Comment l'étude, c'est extraordinaire, et comment l'étude transforme la personne de l'intérieur, et comment l'étude, c'est la qualité humaine, que l'homme, la qualité qu'il a, c'est quoi? C'est son cerveau. Et donc le cerveau, c'est quoi? C'est l'étude. Donc on a expliqué qu'a priori, d'un côté, le plus important, c'est l'action, d'un autre côté, le plus important, c'est l'étude. Alors comment on fait? Qu'est-ce qu'on a tranché? Alors on a commencé à trancher la semaine dernière. Comment on a tranché? On a dit que la Gemara, elle tranche, elle dit que lorsqu'une personne doit faire un choix entre d'un côté une mitzvah et d'un autre côté l'étude, qu'est-ce qui est prioritaire? C'est l'action. Pourquoi? Parce que la raison principale pour laquelle on est descendu en bas, c'est pourquoi? C'est pour raffiner Chazak, pour raffiner le monde dans lequel on se trouve. Et ça, ça se passe plus par la mitzvah que par l'étude. Mais attention, attention. Ce que je vous dis s'applique uniquement lorsque c'est une mitzvah qu'un autre ne peut pas faire à ma place. Là, on te dit, tu es de tout côté, tu fais la mitzvah. Mais si c'est une mitzvah qu'un autre peut faire à ma place, il y a toujours des mitzvahs à faire. Tu sais, on reçoit des fois des SMS, des WhatsApp, etc. Des mitzvahs, tu veux en faire, il y a toujours. Tu as des groupes, on m'a dit qu'il y a un groupe Facebook qui s'appelle Coup de pouce juif.
Oui.
Tu passes sur Facebook.
Oui,
hein? On m'a dit qu'il y a un groupe qui s'appelle comme ça, un groupe Facebook. Ouais. Je sais pas, je connais pas, je suis pas dedans.
Ouais.
Mais voilà, c'est un groupe dans lequel tu veux faire des mitzvot. Ouais. Tu vas sur ce groupe, tu peux faire des mitzvot toute la journée, même la nuit. Ouais. Même à 4h du matin, tu te réveilles, tu vas sur Coup de pouce juif, tu peux trouver une mitzvah à faire.
24.
Alors la question 23. Est la suivante, voilà, c'est où est la limite? Où est la limite? Alors voilà ce que te dit la halakha. La halakha, elle te dit, lorsque c'est une mitzvah qui ne peut pas être accomplie par d'autres personnes, c'est une mitzvah qui est pour toi, qu'il n'y a que toi qui peux faire, là, dans ce cas-là, tu dois tout laisser de côté. Si c'est pas le cas, c'est-à-dire qu'il peut être accompli par d'autres personnes, dans ce cas-là, tu peux continuer à faire ce que tu devais faire. Par exemple, maintenant vous avez un cours de Torah ce soir, c'est de l'étude, ça. Ce qu'on fait maintenant, c'est de l'étude. On est d'accord. Maintenant, si vous allez sur Coup de pouce juif, ou je sais pas, hein, vous trouvez d'autres groupes, vous pouvez trouver des mitzvot à faire. Il y a des mitzvot à faire. Pourtant, vous êtes venu au cours. Pourquoi vous êtes venu au cours? Parce que ces mitzvot ne sont pas des mitzvot qui sont destinés qu'à vous. C'est une mitzvot qu'une autre personne peut aussi faire. Donc là, dans ce cas-là, puisque vous avez votre cours, vous abandonnez pas votre cours. Mais s'il y a une mitzvah, qu'il y a que vous qui pouvez faire. Que vous. Par exemple, vous avez un ami qui est pas bien et qui vous appelle et qui dit, je suis pas bien, est-ce que tu peux passer me voir maintenant? Je suis pas bien. Maintenant, tu peux dire, on va envoyer quelqu'un d'autre. Mais c'est pas la même chose. C'est pas quelqu'un d'autre qui veut voir. Qui veut voir? Il veut voir toi. Ou bien, comme l'exemple que j'ai donné la semaine dernière, tu as par exemple ta mère ou ta femme ou je ne sais qui te dit, viens me chercher à l'aéroport. Est-ce que tu peux me faire plaisir de venir chercher à l'aéroport? Tu peux lui envoyer un Uber. Ou un chauffeur privé, ou qui vous voulez. Je vais pas faire de pub, d'accord? Tu peux lui envoyer un taxi, y a pas de problème. Tu dis, je paye le taxi. Mais c'est pas le taxi qu'elle veut, elle veut toi. Alors comment tu fais?
On privilégie la personne.
Eh ben, dans ce cas, étant donné que ça peut pas se faire par quelqu'un d'autre, si j'ai un choix à faire entre une mitzvah et l'étude, et que la mitzvah en question ne peut pas être accomplie par d'autres personnes, dans ce cas-là, qui c'est qui doit y aller? C'est moi qui dois y aller. Et c'est pareil pour plein de mitzvot comme ça. Combien d'exemples on a dans la Gemara, hein? Les gens venaient les voir comme ça, ils étaient tranquilles, en train d'étudier la Torah. Et on vient les voir, et on leur dit, voilà, il y a un prisonnier à aller racheter, donc à aller libérer. Maintenant, lui, il est en train d'étudier la Torah. Mais on sait que la personne qui sait parler avec le chef de la prison, c'est qui? C'est lui. La personne qui sait parler avec le gouverneur, c'est lui. Eh ben, combien d'exemples on a eu avec des rabbis et des tzadikim dans la Gemara et dans l'histoire hassidique? Ils ont tout laissé en plan, ils ont tout abandonné. C'est-à-dire, ils ont mis de côté leur famille, leurs amis, leurs études, ils ont tout mis de côté pour aller privilégier cette mitzvah. À tel point que même, il y a même des questions dans la Gemara qui se posent. Si par exemple quelqu'un comme ça, il est en route pour aller libérer un prisonnier, eh ben, on te dit que d'une certaine façon, il est exempté de toutes les autres mitzvot. Exempté de toutes les autres mitzvot. Tout, tout. Après, il y a un débat dans la Gemara. Qu'est-ce qui se passe maintenant si c'est un moment dans lequel il n'est pas en train de marcher? Il s'est arrêté pour se reposer. On dit, ah, tu as arrêté pour te reposer, là tu dois commencer à faire chemin, etc. Mais tant qu'il est en train de marcher, on dit, tu oublies tout, il n'y a plus personne maintenant, il n'y a que ta mitzvah. Tu oublies tout. Ça se discute dans la Gemara. C'est pour dire que de là, on voit, hein, que lorsque c'est une mitzvah qu'il n'y a que moi qui peux faire, la Torah te dit, tu y vas. Faut y aller. Comme ils disent, quand faut y aller, faut y aller. Très bien. Alors, ok, on va continuer.
Joseph, il rigole.
Il faut y aller. N'est-ce pas, monsieur Benita? Quand le devoir t'appelle.
Il faut être présent, c'est pas le devoir.
Il n'y a pas d'excuse. Ou alors, s'il arrive à l'aéroport et qu'il te dit, je vais me chercher, tu dis, attends, il y a un endroit où c'est écrit.
Là, t'es mal barré, là.
L'endroit où c'est écrit salle d'attente, tu sais, comme ça. Tu dis, alors, assieds-toi avec tes bagages, j'arrive.
Bon, on va continuer.
Tu l'apprends quand même.
Alors.
Joseph, tais-toi.
Joujane, il dit, mach en ken. Alors, on va prendre à. On va prendre la page 159. Mach en ken, kef chef, charla, sotalida, herim. Par contre, lorsque la mitzvah rabotai ne peut pas être accomplie par d'autres personnes, peut être accompli par d'autres personnes. En me vatlit Talmud Torah. Dans ce cas, on annule pas l'étude de la Torah. Pourquoi? Comment ça se fait? Ah, shikol la Torah ena el apirush mitzvot maasiot. Bien que toute la Torah, ce n'est que l'explication des mitzvot. Alors dans ce cas-là, pourquoi tu, dans ce cas-là, la mitzvah devrait être toujours prioritaire? Comment c'est que tu me dis que non? S'il y a quelqu'un d'autre qui peut la faire la mitzvah, dans ce cas-là, la mitzvah n'est pas prioritaire sur la Torah. Pourquoi? Ve'ainu, en fait, c'est comme on a expliqué la semaine dernière. Mishum, parce que chez Iprinat Chabad, shel Or en Sof Baruch Hu. Parce que la Torah, ça représente, kaviachol, si on peut dire, l'intellect de Dieu. Ou be'oskoba, mamshichalav, Or en Sof Baruch Hu, be'yeterset, ve'aharak, dola le enketz, me'ahara, ve'amshacha, alede pikudim, she'em, remach, evarim, demaka. Je vais expliquer ce qu'il dit ici. C'est très puissant ce qu'il dit ici. Il dit comme ça. Chaque fois que je fais une mitzvah, il y a une partie de mon corps qui est habitée par ce que je suis en train de faire. Par exemple, je mets les tefillines. Quelle partie de mon corps va être habitée par la mitzvah?
Mon bras.
D'accord? Mon bras et peut-être mon crâne. Maintenant, ce qu'on a expliqué la semaine dernière, c'est ce qu'il y a de plus profond chez l'homme, c'est quoi? C'est le cerveau, c'est ça ce qu'il y a de plus profond chez la personne. D'ailleurs, vous savez qu'une des choses les plus difficiles qu'on n'arrive pas à sonder encore même en médecine, c'est le cerveau. Tous les autres membres, pratiquement tous, on arrive à les sonder, on arrive à trouver des modèles, on arrive à comprendre à peu près comment ils fonctionnent. Mais un des organes les plus compliqués qu'on n'arrive presque pas à comprendre, on arrive à comprendre un tout petit peu, c'est quoi? Exactement, on peut pas greffer le cerveau. Il y a un dicton chassidique qui dit, on peut pas greffer une tête. Un cerveau. Non, mais c'est vrai, c'est écrit, ça. On peut tout greffer aujourd'hui. Tu peux tout greffer. Tout. Il n'y a pas de problème. On peut donner. Même un cœur, on peut greffer. Mais une tête, quand il est remarre, on ne peut rien faire. Il est bête, on est là, puis il va prendre une option. C'est pas possible. Donc, ça veut dire que l'intellect, c'est ce qu'il y a de plus profond. Maintenant, écoutez bien. La Torah, ça représente, kaviachol, si on peut dire, l'intellect de Dieu. Lorsque moi, je casse ma tête pour étudier la Torah, pour essayer de comprendre ce que Dieu dit, ça veut dire qu'à ce moment-là, mon intellect est occupé à comprendre l'intellect de Dieu. Donc je ne sais pas si vous imaginez l'ampleur et la hauteur de ce que je suis en train de faire. Il y a d'autres qui sont en train d'utiliser leur intellect pour savoir comment je vais atteindre tel objectif qui n'est pas cachère, ou comment je vais faire telle bêtise qui n'est pas cachère. C'est-à-dire qu'il va utiliser sa tête pour essayer d'arriver à quelque chose de pas cachère, pour essayer de descendre plus bas. Et moi, je vais utiliser ma tête quand je viens à un cours de Torah pour essayer de comprendre la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Donc, imaginez-vous la hauteur qu'on prend quand on vient à un cours de Torah. Même si t'as pas compris le cours, le fait même que ta tête, elle est préoccupée à essayer de comprendre ce qui est au-dessus de toi, déjà, c'est déjà un très très grand niveau. C'est pour ça, on dit, le juif qui va faire l'impasse sur l'étude de la Torah, il fait une grave erreur. Il y a beaucoup de juifs comme ça, malheureusement, qui font plein de mitzvot, mais l'étude, il dit, je laisse ça pour les rabbins, c'est pas pour moi. Il y a plein de gens comme ça. Ça veut dire comment? Il y a un petit rachat le Shabbat, sympathique, il y a pas plus que ça, ça va. On donne pas plus que ça. Et il te dit, c'est une erreur. C'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Parce que l'impact que tu as dans une étude, quand tu fais une étude de la Torah, quand tu fais une étude, ça veut dire que ton cerveau est occupé en train d'essayer de s'élever vers l'intellect d'Akadosh Baruch Hu. Donc il prend de la hauteur. Je sais pas si on pourrait donner un exemple. Imaginez par exemple qu'il y a Einstein. C'est un juif, on dit pas l'Avdil, c'est un juif, mais Einstein. Imaginez que vous lisez un texte d'Einstein. Maintenant vous comprenez rien du tout. Imaginez que vous lisez une note qu'il a écrite pour lui-même. Il a écrit une note, tu vois, une ligne. Une ligne, il faudrait 10 lignes pour déchiffrer cette ligne. Alors toi, tu lis cette note, tu essaies de casser la tête pour comprendre. Il y a une formule, un truc, tu comprends rien du tout. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Au moment où tu lis la formule, qu'est-ce qui se passe? T'essayes de rentrer dans la tête d'Einstein. C'est-à-dire, t'essayes de t'élever, de lever mon cerveau de Khmar, j'essaye de l'élever à son niveau pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passait dans sa tête à ce moment-là. Maintenant, est-ce que je vais comprendre? Je vais pas comprendre. Peut-être oui, peut-être non. Peut-être je vais comprendre 1%. D'accord? Monsieur Benita, il comprendra 10%.
Non, voilà. Non,
d'accord?
Depuis qu'il a Joseph à côté.
C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Mais en vérité, il te dit, même si tu n'as pas compris, le fait même que ton cerveau était occupé à essayer de comprendre une formule qui était dans la tête de quelqu'un qui te dépasse, déjà, t'as pris de la hauteur. Même si t'as pas compris ce qu'il a dit, déjà, t'as pris de la hauteur. C'est-à-dire, t'es pas resté où tu es, t'essayes de prendre de la hauteur. Maintenant, imaginez, si on parle pas d'Einstein, mais on parle de Dieu. Et que la Torah, c'est la chorma de Dieu. Et quand une personne vient à un cours de Torah, de tout ce que vous voulez, de Gemara ou de Tania, et qui me dit, j'ai rien compris, je dis, kol hakavod, c'est normal, t'as rien compris. Qu'est-ce que tu crois qu'on vient comme ça, on comprend? C'est la Torah de Dieu, c'est la science de Dieu. Tu crois qu'on vient en comprendre? Si tu dis qu'on comprend tout de suite au quart de tour, ça veut dire que t'es comme Dieu. On comprend pas. Et comme, hein, Serge, oui. C'est parce que t'as compris que t'as pas compris, compris
que t'as tout compris.
Que t'as tout compris. Voilà. C'est entre nous, hein, ça c'est. Je répète, là. Répète, Serge, la phrase.
C'est parce que vous avez compris que vous n'avez rien compris que vous avez tout compris.
Encore une fois.
Serge, il faut que tu changes de dealer.
Si t'es dans l'aventure, c'est l'aventure.
Ça, je connais.
Après, je te l'explique.
Ça, c'est tranquille. Il monte, puis dit ça. Je le laisse tranquille après.
Il laisse tranquille. Il a des références.
Ça rejoint une citation de Platon qui dit « Ce que je sais, c'est que je ne sais rien ».
Jean Gabin.
Très bien.
Voilà. Il a chanté ça, Jean Gabin.
Bon, je vais aller plus tôt. Moi, je vais aller chez Maïmonide. Maïmonide dit, le summum de la compréhension, c'est de comprendre qu'on n'a pas compris. Tachlit, en disant en quatre mots, Maïmonide. Tachlit aïdia, chez l'oneda. Le summum de la connaissance, c'est de ne pas connaître. C'est-à-dire de comprendre que tu ne comprends pas.
Si on ne connaît pas, on n'avance pas, quand même.
Ben justement, c'est de comprendre qu'on ne comprend pas. Ce qu'il te dit ici. Donc, voilà. Et donc, pourquoi c'est tellement important d'étudier la Torah? Parce que quand tu étudies la Torah, tu prends de la hauteur, tu t'élèves, t'essayes même, le fait même que tu essayes de mettre ta tête dans ce que Dieu y veut, déjà t'as pris de la hauteur. Déjà quand on sort d'un cours de Torah, on est tout autre, on a déjà pris de la hauteur, on s'est élevé. C'est-à-dire que toutes les journées je suis en train de réfléchir à des petits détails de ma vie, etc., de ce qui s'est passé chez moi, dans mon boulot, dans ma famille, etc. Et là, dès que tu viens à un cours de Torah, le fait même que tu réfléchis à la Torah, tu prends de la hauteur. C'est déjà extraordinaire ça. Ça t'as pas dans une mitzvah. Ce point-là, tu l'as pas dans une mitzvah. Ce point-là de prendre de la hauteur, quand je mets les tefillines, je sens pas que je prends de la hauteur. C'est très important, ça m'enveloppe, ça m'entoure, mais je sens pas que... Non, ça je sens pas. Alors que quand j'étudie la Torah, je l'ai. C'est pour ça qu'il te dit, à moins que ce soit une mitzvah qui ne peut pas être faite par d'autres personnes, que là, dans ce cas-là, je fais la mitzvah, bah, pas de problème. Si c'est une mitzvah qui peut être faite par d'autres personnes et que j'ai un cours de Torah prévu, qu'est-ce que je fais? Je viens au cours de Torah. D'accord? Je viens au cours de Torah. Voilà. Alors il dit, Vézéou, ça c'est parce qu'on va continuer dans les mots.
Quelle page?
159.
Mais Zéou Shama, au milieu de la page 160.
Oh, je de pas comprendre, tu viens pour le courage.
Exactement. Mais Zéou Shama, parce que bon, puisqu'il a parlé Joseph, je vais lui faire une petite citation dans le cours. Joseph, il avait un peu de temps samedi matin, Shabbat matin, il avait un peu de temps, le temps qu'on fasse les livres. Alors il m'a dit, donne-moi un livre à lire, un livre en français. Alors je dis voilà, dans la bibliothèque là-bas, tu ouvres et un livre, d'accord? Tu prends le livre que tu veux. Il m'a dit quel livre je prends. Je dis je sais pas, prends ce que tu veux. Alors il m'a dit donne-moi un livre que je comprends rien. Parce que moi quand je comprends ça m'ennuie.
Ah allez.
ça c'était avant le kidou.
Ça c'était à 9h du matin ça. 9h du matin. 9h30. Il m'a dit donne-moi un livre que je comprends pas parce que si je comprends ça m'ennuie.
Vous avez reçu le livre. Hein?
Oh oui, je vais donner un livre.
Ça m'interpelle.
Oui.
Ah
oui, hein, Joseph. Le dimanche matin, il y a un cours de Gemara. À 9h30. Ah bon, ok.
Monsieur Akos, il a fait la vente.
Eh oui.
Après, il y a Joe qui veut y aller.
Vézé ou... Oui, cours de Gemara. Vézé ou... Il y a tout ce qu'il faut. Il y a les pains au chocolat, il y a la Gemara, il y a les livres, il y a tout ce qu'il faut.
Et en semaine, c'est...
Vézé ou Shama Rav Shechet. C'est pour ça que Rav Shechet a dit, Rabotai, Chadai Nafshai. Rav Shechet a dit la chose suivante. Il a dit, Chadai Nafshai, mon âme, réjouis-toi. Lecha Karae, Lecha Tenae. C'est pour toi que je lis le Chumash, et c'est pour toi que je dis la Mishnah. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Rav Shechet était un maître d'une très très grande envergure. C'est-à-dire que Rav Shechet était non-voyant. C'était non-voyant, il était aveugle. Et Rav Shechet était un maître d'une très très grande envergure. Une fois, dans un moment de, comme ça, où il était en extase, il a dit, il s'est adressé à son âme. Et il a dit, réjouis-toi mon âme. C'est pour toi que je lis le Chumash, et c'est pour toi que j'étudie la Mishnah et la Gemara. Pourquoi il veut dire ça? Parce qu'il a tout compris, Rav Shechet. Il dit, en vérité, pourquoi tu étudies la Torah? Tu étudies la Torah, tu crois que c'est pour un plaisir intellectuel, pour un plaisir personnel? Pas enfin, ça, tu crois au début, ça. Pas du tout. Tu étudies pour ta neshama. Parce que quand tu étudies la Torah, ta neshama, elle prend un envol. Et c'est pour ça que Rav Shechet, il a pas dit, réjouis-toi mon corps, réjouis-toi mon cerveau, d'étudier la Torah. C'est pas ce qu'il a dit. Réjouis-toi mon âme. Parce que celle qui profite le plus quand on étudie la Torah, c'est qui? C'est l'âme. Vous savez, il y a une histoire qu'on raconte une fois. Il y a eu des... Vous savez, à l'époque, en Russie, il y avait un mouvement qui s'appelait le mouvement de la Haskalah. Bon, il y a des équivalents à ça aujourd'hui. Le mouvement de la Haskalah, c'est les juifs émancipés. Le mouvement des juifs éclairés, bon, voilà. Juifs émancipés, c'est-à-dire des gens qui ont voulu moderniser la Torah. C'est les parents des libéraux. D'accord? Les ancêtres des libéraux. Mais ils avaient progressivement quitté la Torah. Et il y avait une fois des maskilim comme ça, donc qui étaient très très loin de la Torah, mais qui avaient une éducation religieuse dans la yeshiva. Malheureusement, ils ont tout quitté après, mais ils avaient une éducation religieuse, Gemara totale et tout. Et bon, bien sûr, haute aristocratie, etc. Bon. Et une fois, il y a un gouverneur en Russie qui leur dit, dites-moi, on n'arrête pas de parler de l'intelligence des juifs. Montrez-moi un peu c'est quoi votre intelligence. Nous, on vous a montré. Nous avons montré nos grands poètes, nos grands, etc., nos grands philosophes. Montrez-moi quelque chose de juif, montrez-moi. Alors, ils ont réfléchi, ils se sont mis à plusieurs, et ils ont dit, on va lui enseigner, on va bien préparer une sugya. C'est une sugya dans la Gemara Baba Metzia, Perek Azahav, la sugya de Tagare Loud, les commerçants de Loud. C'est une sugya très très compliquée, avec des rebondissements dans tous les sens. Mais vraiment, c'est magnifique, c'est une sugya magnifique, c'est une sugya qui prend des mois à étudier. Et donc ils ont dit, on va lui faire une petite synthèse de cette partie de Gemara. C'est vraiment, il y a des rebondissements, etc. C'est une très belle sugya. Rendez-moi à étudier. Et donc ils ont dit, on va lui préparer une petite synthèse en 2 heures. On prend rendez-vous avec lui et on va lui faire un petit truc sympathique en bon russe. Et ils ont préparé une super belle synthèse. Enfin, ces gens qui savaient parler. Et donc ils ont pris rendez-vous avec lui, etc. Et ils l'ont fait, voilà, ils l'ont exposé la synthèse, etc. Et 2 heures plus tard, une fois qu'ils ont terminé, eux, ils étaient en extase, parce que même le fait même de l'expliquer, c'était déjà pour eux un plaisir extraordinaire. Alors, ils ont dit, bon, ils ont terminé au bout de 2 heures. Et l'autre, il leur dit, c'est tout, c'est ça? Pourtant, c'était pas un imbécile, hein. Et ils ont dit, bah oui, je comprends pas, tu vois pas comment c'est impressionnant, les logiques, etc. Ils ont dit, ouais, bof. Bof.
Ils n'ont pas compris.
Alors, ça les a intrigués, ils ont pas compris. Alors, ils sont partis voir, si vous souvenez de son nom, c'était Rabbi Chaim de Vologine, ils sont partis le voir, hein. Ils lui ont dit, ils les fréquentaient pas en général parce que c'était pas leur milieu. Mais là, ils se sont dit, il faut qu'on aille voir un rabbin. Peut-être qu'on a mal compris la Gemara. On se rappelait quand on était à la Yeshiva, cette suga, c'était le summum. Comment c'est possible? Alors, ils sont partis voir le rav. Le rav, il leur dit, alors, quelle suga vous leur avez faite? T'as celle-là. Il dit, ah bon, alors, expliquez-moi comment vous l'avez faite. Et ils l'ont expliqué. Il a dit, oui, le rav dit, vous avez très bien compris. C'est intéressant ce que vous dites. Très bien, c'est magnifique. Il a dit, mais je comprends pas. Alors, nous, pour nous, c'est magnifique. Pour vous, c'est magnifique. Et lui, il a rien compris. Le gouverneur a rien compris. Et pourtant, c'est pas un imbécile, c'est quelqu'un avec qui on parle, quelqu'un haute aristocratie. Il a dit, vous comprenez pas? Il a dit, il n'y a qu'un juif qui peut comprendre la Torah.
Oui.
C'est impossible de comprendre la Torah. Personne ne peut comprendre la Torah. Parce qu'on touche à l'infini, personne ne peut comprendre la Torah. C'est une chance que Dieu nous a donnée, que nous les juifs, on arrive à essayer de comprendre la Torah. L'autre, c'est un gars, et qu'est-ce que tu veux? C'est un gars, il ne peut pas comprendre.
Il a pas la
même s'il veut faire le beau comprendre, il ne peut pas comprendre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle la Torah orale. La Torah écrite, tout le monde l'a. Le livre le plus vendu au monde, c'est quoi? Le plus vendu et le plus traduit, c'est la Bible. De très, 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 très loin. Le livre le plus vendu, le plus mal lu, et le plus traduit, c'est la Bible. Mais la Bible, c'est la Torah écrite. Ça, la Torah écrite, Dieu l'a donné, tout le monde peut la lire. Mais la Torah orale, comment ça fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui étudient la Torah orale, même chez les goyim? Parce qu'ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Aujourd'hui, les Coréens, ils veulent faire les beaux Zarma, ils jouent Talmud. Vous savez ce qu'ils prennent dans le Talmud? Ils prennent des petites bribes, des petits mots comme ça pour dire Zarma, on joue le Talmud pour faire la haute classe. Ça veut dire c'est très 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 loin, parce que celui qui n'est pas juif, celui qui n'a pas l'âme de juif, il ne peut pas comprendre. Il n'est pas conçu pour. C'est ce qu'il te dit ici. Quand tu étudies la Torah, tu étudies un morceau de Dieu. Tu étudies l'intellect de Dieu, tu étudies la façon de réfléchir de Dieu. Tu t'imagines ce que ça veut dire? Le fait même d'essayer d'étudier la Torah, imagine-toi la hauteur que tu prends. C'est pour ça que Rav Sheshetz, lorsqu'il étudiait la Torah et qu'il sentait qu'il s'envolait, il disait pas « réjouis-toi mon intellect », parce que l'intellect, il peut aussi kiffer. Il disait pas « réjouis-toi mon intellect, réjouis-toi mon cœur, réjouis-toi mon corps ». Il disait « réjouis-toi mon âme ». Parce que celle qui travaille le plus quand on étudie la Torah, c'est qui? C'est l'âme. C'est elle qui prend vraiment de la hauteur.
J'avais une question. Pour celui qui est en processus de conversion, il n'est pas encore vu. Il va apprendre pour devenir...
Ça, je rentre pas dans les conversions. Conversion, c'est autre chose. Une conversion, c'est l'histoire d'une neshama qu'il avait déjà, qu'il a récupéré, je rentre pas dedans. Conversion, c'est compliqué. Comment chez Nidber, ma komacher, barichut, comme c'est expliqué dans un autre endroit longuement. Maintenant, dit l'admor azaken, ve inne, amshach, aviar, azo, shiadam, amshichu, meir, meharat, anzabachu, al nafsho. Cette lumière que l'homme va amener sur sa personne quand il étudie la Torah, qui est une lumière de Dieu infini, ve'al nafshot kol Israël, et sur les âmes de tout Israël, parce que un juif, il n'est pas autonome. C'est-à-dire, chaque fois que moi je m'éclaire mon âme avec l'étude de la Torah, c'est pas que mon âme qui est éclairée. C'est les âmes de tout Israël qui sont éclairées. Tout Israël.
Donc quand un juif, il étudie la Torah, c'est comme si tous les
Torahs. Exactement. Ouais, bah oui. Bien sûr, pourquoi? Je vais vous dire pourquoi.
Alors, c'est sûr, c'est un kiff.
Alors, je vais vous dire pourquoi. Pourquoi, hein? Parce que, vous savez, comment on appelle en hébreu l'assemblée d'Israël? On appelle ça Knesset Israël. Alors pas la Knesset qui est en Israël. Hein. On appelle ça Knesset Israël. Knesset Israël, c'est l'assemblée d'Israël. C'est quoi Knesset Israël? Ça, on verra plus tard, Bezrat Hashem, chapitre 41, donc c'est dans quelques mois. On verra la notion de Knesset Israël. C'est quoi l'assemblée d'Israël? On verra qu'en fait, c'est une entité qui représente toutes les Neshamot. C'est-à-dire que là, chacun de nous, on est différent, on n'est pas les mêmes. D'accord? Chacun de nous n'est pas le même et unique dans le monde. C'est-à-dire que il y a eu une seule personne comme chacun de nous dans le monde qui a existé depuis la création et qui existera jusqu'à la fin des temps. Personne ne peut ressembler à 100% à nous. Personne. D'ailleurs, vous savez, c'est la raison pour laquelle Adam Harishon a été créé un seul. Parce que Kadosh Baruch Hu voulait nous montrer de la même façon que Adam, il est unique. Chacun de nous est unique. Chacun. Chacun de nous est unique. Il a un aspect unique que personne d'autre a eu jusqu'à maintenant et que personne d'autre aura jusqu'à la fin des temps. Personne. Un aspect unique. Cependant, même les jumeaux, c'est jamais à 100% la même chose. C'est impossible.
C'est jamais.
C'est pas possible. Donc, il suffit de voir les empreintes.
C'est très proche.
C'est pas possible. Les empreintes, c'est un détail. Ça peut être très 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 proche, mais il y a une singularité. Il y a une différence. Il y a une différence.
Physique, mental.
Tout. Physique, mental, tout. C'est jamais à 100% les mêmes. Tout ce que tu as, c'est-à-dire que même les atomes, tu prends un atome, il n'y a pas un atome qui ressemble à l'autre. Un seul. Maintenant, si je te prends par exemple dans ce verre, dans ce brindille de chips qui est ici, il y a combien d'atomes ici? Des millions. D'accord? Chaque atome qui est ici n'est pas le même que l'autre. Il n'est pas le même, c'est pas le même. C'est-à-dire que, imagine-toi maintenant, je ne sais même pas si on peut trouver un super calculateur pour être capable de calculer le nombre d'atomes qu'il y a dans le monde. C'est impossible. C'est impossible de calculer le nombre d'atomes qu'il y a dans le monde. C'est des sommes qu'on peut même pas, enfin, peut-être que les ordinateurs peuvent calculer, mais c'est très 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 loin, c'est impossible. Alors, imagine-toi que, lorsque j'étudie la Torah, c'est pas que mon âme qui est éclairée, c'est aussi l'âme de tout Israël, parce que chacun de nous a deux aspects. Il a un aspect individuel, qui est l'aspect que chacun de nous est différent, mais il a un aspect global, le fait qu'on appartient tous à une famille, une entité, qui s'appelle Knesset Israël, qui s'appelle l'Assemblée d'Israël. Et en fait, lorsqu'on étudie la Torah, quelque part, on s'élève, et c'est pas seulement nous qui nous élevons, c'est tout Israël qui s'élève. Tout Israël qui s'élève. C'est la raison pour laquelle le roi David dit la chose suivante. Il dit que de la même façon que on a besoin d'une armée pour partir en guerre, et qu'on a besoin des soldats, et que s'il n'y a pas de soldats, comment on va partir en guerre? D'accord? De la même façon, il dit, on a autant besoin des gens qui étudient la Torah. Des gens qui étudient la Torah constamment. Pourquoi? Parce qu'il dit autant, le fait qu'il y ait des gens qui vont aller se battre physiquement, c'est une nécessité. Autant le fait qu'il y ait des gens qui étudient la Torah, c'est une nécessité parce qu'ils élèvent tout le peuple. C'est pas que eux qui s'élèvent. C'est ça l'erreur que les gens y font. Les gens y pensent, ils disent oui, il y a des gens qui sont dans les yeshivot, ils sont enfermés, il n'y a que eux. C'est ce qu'on comprend pas. De la même façon qu'il y a des soldats et que les soldats, eux, ils défendent tout le clan Israël, de la même façon, celui qui étudie la Torah, il élève tout le clan Israël. Pas seulement lui-même, il élève tout le clan Israël. Et c'est extraordinaire. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, vous savez, quand on parle d'étudier la Torah, comment on appelle étudier la Torah? Vous prenez dans la Mishnah, etc. Comment on appelle étudier la Torah? On appelle Koré Batorah. Maintenant, on va faire un peu d'hébreu. Comment, Koré en hébreu, ça veut dire quoi, Koré? Koré, ça veut dire lire. Ça veut dire lire la Torah. Très bien. Maintenant, comment je dis en hébreu, je t'appelle? Ani Koré Lecha, je t'appelle. Alors, il faut décider. Koré, ça veut dire lire ou ça veut dire appeler?
Ça a deux significations.
Ah, avec la même, vous me suivez? C'est-à-dire, par exemple, je te dis, Er Korim Lecha. Comment on t'appelle?
David.
D'accord? Maintenant, lis le Tania. Ani Koré Tania, je lis le Tania. Alors, Koré, ça veut dire lire ou ça veut dire appeler? Comment ça fonctionne? Et là, c'est un chidouche que le Noir Zeken nous donne. Très grand chidouche. Il dit, pourquoi quand on étudie la Torah, on appelle ça Koré Batorah, lire la Torah? Parce qu'en vérité, quand je lis la Torah, c'est comme si que j'appelle Dieu. Je lis la Torah, j'appelle Dieu. Vous comprenez? C'est pour ça que le mot Koré en hébreu, il a un double sens. Koré dans le sens je lis, Koré dans le sens j'appelle Dieu vers mon âme, j'appelle. Et cet appel-là, il est pour tout le monde. Koré à Kadosh Baruch Hu, j'appelle à Kadosh Baruch Hu. Et c'est extraordinaire, ça. C'est, on se rend pas compte. Dans l'autre. Ça veut dire, au-delà de l'aspect intellectuel, les compréhensions, etc., quand j'étudie la Torah, j'appelle Dieu.
Dans l'autre cas, on dit, Erkorim
Lecha. Erkorim Lecha.
Alors, comment tu t'appelles? Je m'adresse pas à Dieu.
Non, mais j'ai compris. Mais normalement, le terme adéquat pour l'étude de la Torah aurait dû être Alomed Batorah. Celui qui étudie la Torah. Mais vous allez voir que dans la Mishnah, partout, comment on parle? Prenez par exemple, on étudie en ce moment le traité Brachot, chapitre 4. Le dimanche matin, on étudie chapitre 4 de Brachot, en Gomara. Et là-bas, chaque fois qu'on parle d'étudier la Torah, comment on dit? Haya, Koré, Batorah. Si, lisez la Torah. Alors nous, quand on entend le mot lire, on se dit, oui, lire, parce qu'il va lire dans le Sefer Torah. Il dit, mais non, mais pourquoi tu dis Koré? Vous savez quoi, Koré? Koré, ça veut dire appeler. Mais il appelle ou il lit? Comment ça fonctionne? Il lit, il appelle ou il lit? Il dit, c'est la même chose. En vérité, toi, tu lis physiquement la Torah. Mais en lisant physiquement la Torah, tu appelles la Kadosh Baruch Hu, t'as rien d'appeler Dieu.
Et quand on l'appelle pour la paracha, pour lire le Sefer Torah.
Oui.
Alors, on l'appelle comment?
Mais c'est pareil. Parce qu'en fait, je vous expliquais. Le Ramban Nachmanide nous explique que toute la Torah, chaque mot de la Torah, c'est des noms de Dieu. Nous, quand on lit la Torah, surtout pour ceux qui sont venus au cours, qu'on a fait Shabbat après-midi, on a expliqué qu'il y a le tétragramme, il y a le nom Yud-Kivavke, il y a le nom Adonai, etc. Il y a différents noms. Bon, très bien, on a expliqué tout ça. Mais, en vérité, ce qu'on se rend pas compte, c'est que chaque mot de la Torah est un nom de Dieu. Chaque mot de la Torah. Kol la Torah, kol la Shemot HaShem Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire même le mot Amalek qui a été écrit dans le Sefer Torah. Imaginez, un jour, on lit dans le Sefer Torah, je suis en train de lire, je vois que le même de Amalek est effacé. Qu'est-ce que je disais, mais c'est pas grave.
C'est Amalek.
Ah bah, c'est Amalek, qu'est-ce qu'il y a? Le Sefer Torah, il est cachère? Il est pas cachère. Pourquoi il est pas cachère? Ça va, c'est Amalek, qu'est-ce qu'il y a?
Il y a une lettre en moins.
C'est pas seulement ce qu'il y a une lettre en moins. Parce que toute la Torah, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Même le mot Amalek, c'est un nom d'Akadosh Baruch Hu. Seulement, il y a des noms qui sont dévoilés et des noms qui sont cachés. Chaque mot de la Torah, c'est des shemot et des noms d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça, quand vous lisez en particulier le Chumash, chaque mot que vous lisez, vous appelez Akadosh Baruch Hu. De la même façon que quand vous dites Hachem, vous l'appelez, vous l'invoquez. De la même façon, quand vous dites Bereshit, vous appelez Dieu. Bara, vous appelez Dieu. Elohim, vous appelez Dieu. Parce que Bereshit, c'est aussi un nom de Dieu. Bara, c'est aussi un nom de Dieu. Elohim, c'est aussi un nom de Dieu. Et, c'est aussi un nom de Dieu. Hachemayim, chaque mot, chaque lettre de la Torah, c'est le nom de la Kadosh Baruch Hu. Donc, de la même façon que, lorsque j'appelle par exemple David. Lorsque je lis David. D'accord? Lorsque je lis David, j'appelle quelqu'un qui s'appelle David. Je l'appelle. On a imaginé, si je lis un texte, et chaque mot de ce texte, c'est des noms. Donc je lis par exemple, je lis un texte dans lequel c'est écrit David, Reuven, Shalom, Bernard, Henri, chaque mot, Lévi. D'accord, Lévi. Chaque mot je lis. Ouais. Donc tout de suite dans la salle, celui qui s'appelle Shalom, il va me regarder, celui qui s'appelle David, il va me regarder, celui qui s'appelle, il va me regarder, c'est des noms. On a imaginé que quand vous lisez le Sefer Torah, chaque mot que vous lisez, c'est un nom de Dieu. Donc vous appelez Dieu, Dieu il vous répond, tu l'appelles, il te répond. Donc nous on se rend pas compte, il y a un appel. Il y a un appel direct, je dis Hachem, là je sens que je l'appelle. Et il y a un appel indirect, c'est par les noms, c'est par les autres mots de la Torah qui ne sont pas le nom d'Akadosh Baruch Hu. Alors je vais aller un peu plus loin. Qui Adam a koré la chavero sheyavo elav, en bas de la page 61. Comme un homme aurait appelé son ami pour lui dire de venir. Alors c'est intéressant. Quand tu appelles quelqu'un, quand je dis à quelqu'un par exemple, je dis Serge, je t'appelle, viens. Je demande à quelle partie de Serge de venir. Ben, par exemple, je suis chez moi, je suis au fond de la synagogue là-bas, et je dis Serge, viens. Serge, je t'appelle. Qui j'appelle ici? J'appelle qui? J'appelle les pieds de Serge, les mains de Serge, la tête de Serge, les yeux de Serge, les oreilles de Serge. Qui j'appelle? J'appelle Serge. J'appelle tout Serge. C'est-à-dire, quand t'appelles quelqu'un, t'appelles pas un détail de la personne, t'appelles la personne. On a imaginé, si on applique ça par rapport à Kadosh Baruch Hu, quand j'appelle Dieu, qui j'appelle? Tout. C'est-à-dire que j'appelle tout, j'appelle Dieu. Et ça, c'est dans chaque mot de la Torah. Je lis un mot de Torah, j'appelle Dieu, je l'appelle. Et c'est pas que je dis je l'appelle dans le sens envoie-moi un verre. Je l'appelle, ça veut dire je lui dis viens. Viens toi, viens. Entièrement, ton essence, ton être. Ça, c'est pas mes affaires. Ça, mais déjà, c'est comprendre ce qui se passe en coulisses. C'est énorme quand on comprend ce qui se passe en coulisses. Oui. Dieu est là. Mais là, c'est encore plus fort. Là, c'est encore plus fort. C'est-à-dire que là, on te dit qu'en vérité, chaque mot de Torah que je lis, j'appelle Dieu. Et j'appelle pas seulement un aspect de Dieu, j'appelle Dieu. Oui, je suis avec vous. Il est avec nous. Il nous lâche pas.
Même dans la mort, dans tout.
Il est avec nous. C'est pas qu'il a un aspect qui est avec nous. Il est avec nous entièrement. Exactement.
Maintenant, il y a une difficulté, c'est que tout ça dans le juif, c'est la capacité de comprendre cette connaissance, mais les autres, c'est pour ça qu'ils ont la haine.
Bien sûr, ils comprennent pas. Ils comprennent pas qu'est-ce qu'on a trouvé dans la Bible. Et ils utilisent la Bible en deux minutes, ils comprennent pas. Chaque mot de la Torah, chaque mot de la Torah est d'une extrême précision, c'est un nom d'Akadosh Baruch Hu. Ou que ben katana koré la vilavo élave. Ou bien, comme un homme, comme un enfant, qui appelle son père. Un enfant, imaginez, donc le premier exemple, c'est quelqu'un qui appelle son ami. Il dit Serge. Qui j'appelle? J'appelle Serge. Autre exemple. Imaginez quelqu'un, un petit enfant, qui dit papa. Qui il appelle? Il appelle l'argent de papa. Il appelle le câlin de papa. Il appelle qui? Il appelle qui? Il appelle son père. D'ailleurs, une fois l'Admor Hazaken, il a fait un petit test avec son petit-fils. Il lui a dit, son petit-fils, il a pris son petit-fils sur ses genoux, le rabbi de Tzemartzedek, et il lui a dit, c'est qui, papy? Voilà, il a pris son petit-fils sur les genoux, il a dit, dis-moi, c'est qui, papy? Alors, le petit-fils, il a commencé à toucher la tête de papy, il a dit, ça, c'est papy? Il dit, non, ça, c'est la tête de papy. Il a touché le pied, il dit, non, c'est le pied de papy. C'est le cœur de papy, c'est la barbe de papy, c'est les yeux de papy. C'est qui papy? Et le petit-fils, il est cherché entre temps. Et il dit, alors il a dit, mais c'est qui papy? À la fin, le petit-fils a dit, bah papy, c'est toi! Il dit, ah, ça c'est la réponse. Papy, c'est toi. C'est le moi. On peut même pas donner. Parce que le reste, c'est les yeux de papy, c'est les pieds de papy, c'est la tête de papy, le cœur de papy, c'est pas papy. C'est papy lui-même, c'est papy, c'est l'essence, c'est la même façon. Quand un enfant, il appelle son père, il dit papa. Il appelle qui? Il appelle quoi? Hein, Serge? Ton fils, il dit papa. Il appelle qui? Il appelle toi! Maintenant, tu peux être à Honolulu, tu peux être à New York, tu peux être où tu veux. Ça change pas. Il a pas appelé ton corps. Il a pas appelé ton argent. Il a pas appelé tes paroles. Il a appelé toi. Il a appelé toi. D'accord? Vézé chez Katouf. Et avec ça, on va comprendre. Maintenant qu'on a compris, c'est un très grand chidouche qu'on a dit. C'est-à-dire que là, vous voyez, on fait un rebondissement pour expliquer que si c'est une étude de la Torah, si je dois faire une étude et que on me propose une mitzvah, mais une mitzvah qui peut être faite par une autre personne, qu'est-ce que je fais? Dans ce cas-là, je continue à étudier. Parce que tu sais ce qui se passe quand tu étudies? Tu appelles Dieu et il te répond. Il est là. Tu l'appelles, il te répond. Maintenant, on va comprendre. Vous allez avoir maintenant une nouvelle kavana quand vous allez faire demain la tfila. Un des psaumes les plus répétés, un psaume très important, c'est le psaume du Ashrei. Et qu'est-ce qu'on dit dans le Ashrei, la lettre Kouf? Zéchekatou, ce qu'il est écrit, Karov, Hachem, Lechol, Korav, Lechol, Hachem, Ikraou, Vehemet. Je traduis le verset, et vous allez voir de vous-même que le verset, il tient pas la route, a priori. Qu'est-ce que dit le verset? Le verset, il dit, Karov, Hachem, Lechol, Korav. Dieu est proche de tous ceux qui l'appellent. De tous ceux qui l'appellent. Les chol asher ikraou vemet, de tous ceux qui l'appellent vraiment. C'est ce qu'on redit là. Parce qu'au début du verset, tu dis que Dieu est proche de tous ceux qui l'appellent. Et après tu dis que tous ceux qui l'appellent vraiment. Ça veut dire que ceux qui l'appellent vraiment, Dieu n'est pas proche d'eux. Mais pourtant au début du verset, tu as dit Dieu est proche de tous ceux qui l'appellent. Alors c'est faux. Tu aurais dû dire au début du verset, Dieu est proche de tous ceux qui l'appellent vraiment. Vous me suivez? Je ne veux pas trop vous rendre fou. Bon. Je répète. Le verset, il dit... Le verset, il dit... Karov Hachem... Écoutez-moi. Écoutez ma phrase. Dieu est proche de tous ceux qui l'appellent. Donc de là, vous comprenez qu'il est proche de qui? De tous ceux qui l'appellent. Qui l'appellent vraiment, pas vraiment, on s'en fiche. Il est proche de tous ceux qui l'appellent. Après, il dit... De tous ceux qui l'appellent, vraiment. Ça laisse entendre que celui qui ne prie pas vraiment... Et Dieu, il est pas, Dieu lui répond pas, il est pas proche de lui. Il faut décider. C'est une question que pose la Gemara.
Pour s'approcher de Dieu, il faut.
Acheré, je rentre pas. C'est là on parle du verset Karov. Alors pareil, la Gemara elle pose. La Gemara elle pose. Non mais Acheré c'est un psaume. Je rentre pas dedans. Je m'arrête sur un verset de ce psaume. Pareil. La Gemara nous amène une contradiction entre deux versets. Un verset qui est écrit dans Tehilim. Et un autre verset qui est écrit dans Echa. Dans les Tehilim, il est écrit Tov Adonai Lakol. D'accord? Dans le Hacheré, qu'est-ce qu'il est écrit? Dans la lettre Tet, Tov Hachem Lakol. Dieu est bon pour tout le monde, Lakol. D'accord? Et après, vous avez un autre verset dans Echa, qu'on lit donc le livre des Lamentations qu'on lit à Tisha B'Av, qui dit Tov Hachem Lekovav. Dieu est bien, Lekovav pour ceux qui l'espèrent. Pour ceux qui espèrent Dieu. Les Kovav. Donc pareil, la Gemara pose la même question. Elle dit, mais il faut décider. Dieu est bon pour qui? Il est bon pour tous ou il est bon pour ceux qui l'espèrent? Et de la même façon, Dieu est proche de qui? Il est proche de tous ceux qui l'appellent, même s'ils ne pensent pas vraiment à ce qu'ils disent, ou il est proche seulement de ceux qui l'appellent vraiment. Et là, en vérité, comment répond la Gemara? La Gemara répond, elle dit, c'est très simple. C'est de quoi les Chol Asharikra ou Vehemet, de tous ceux qui l'appellent vraiment? D'abord, ça veut dire quoi appeler Dieu vraiment? Qui te dit que c'est vraiment?
Émettre, qu'est-ce que c'est?
C'est ça, là, c'est exactement, comme il dit, il dit, mais c'est quoi la vérité? Parce que tu dis, la vérité, qui te dit que c'est vrai?
Avec des larmes, alors.
Et qui te dit que ça, c'est vrai?
Non, mais qu'est-ce que la vérité?
Qu'est-ce que la vérité? C'est subjectif. C'est quoi la vérité? Qui te dit que c'est vrai?
Pour l'appeler, il faut aller mettre la Torah.
Ah, voilà, on veut Chazak. D'accord? En fait, c'est la question. Tu dis, en vérité, le verset ne se contredit pas. Le verset, il te dit, Dieu est proche de tous ceux qui l'appellent, mais à condition de savoir comment l'appeler. Comment tu vas l'appeler? Les Chol Asher Yikraou, tous ceux qui vont l'appeler, Behemet. Pas Behemet vraiment, non. Behemet avec le Emet. C'est quoi le Emet? C'est quoi la vérité? C'est la Torah. En Emet et la Torah, la vérité c'est la Torah. Ça veut dire, attendez, non justement, ce qu'il te dit, ça veut dire, c'est quoi la vérité? Qui me dit que c'est vrai? Prenez par exemple des choses qui étaient vraies il y a 2000 ans. Aujourd'hui elles sont plus vraies. Donc si elles sont plus vraies aujourd'hui, c'est qu'il y a 2000 ans, elles n'étaient pas vraies. Parce que, je vais expliquer, monsieur Benitez, c'est pour vous ça, dédicacé. Si j'ai quelque chose qui est vrai aujourd'hui, et que dans 2000 ans il sera plus vrai, donc déjà aujourd'hui il n'est pas vrai. Vous êtes avec moi? Donc c'est quoi la vérité? Une vérité doit être absolue. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on te dit que s'il y a 3300 ans, la Torah t'a dit que le Shabbat, il ne faut pas allumer la lumière, ça doit obligatoirement être applicable aussi aujourd'hui. Parce que si on dit que c'était qu'à l'époque et pas aujourd'hui, ça veut dire que déjà à l'époque, c'était faux. Parce que quelque chose qui n'est pas vrai aujourd'hui, ça veut dire qu'avant aussi, il n'était pas vrai. Et oui. Et donc, c'est ça la vérité. Donc, il te dit, voilà ce que Dieu te dit. Karov Hashem lechol korav. Dieu est proche de tous ceux qui l'appellent. Encore faut-il savoir comment l'appeler. Parce que si tu l'appelles en disant t'as trompé, il va pas répondre. Comment je l'appelle? Tu veux l'appeler? Les Chol Asher Yikraou, tous ceux qui vont l'appeler, Behemet. Avec le Emet, avec la Torah. C'est-à-dire que tu l'appelles avec tes mots, bon.
Il vient ou il vient pas.
Mais tu l'appelles avec la Torah, tu l'as appelé. Tu comprends? Quand j'appelle quelqu'un, je lui dis, j'appelle quelqu'un, j'ai dit, Bouboule. Bon, peut-être qu'il va comprendre, il va pas comprendre. Ouais, tu sais pas, c'est-à-dire, tu sais pas s'il va comprendre. Mais quand tu l'appelles avec son surnom que lui il a donné, eh ben là, il est obligé de répondre.
C'est quoi l'appeler avec la Torah?
Le nom de Dieu, il y a le nom de Dieu qui est caché. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire appeler avec la Torah? Le nom de Dieu.
Le nom de Dieu, c'est la Torah. Chaque mot de la Torah est un nom d'Akadosh Baruch
Hu. Si j'invoque Dieu, si je réclame Dieu, il va pas. Je vais le retirer. Je vais prendre le chouma, je vais ouvrir comme ça, je vais réciter.
Non. Ce que je veux dire, c'est que je l'invoque au travers de la Torah. C'est la Torah qui m'explique comment je parle à Dieu. Au travers ma prière, au travers mon étude, et j'appelle Dieu.
Mais c'est ce qu'on fait toute la journée.
Bien sûr, très bien. Eh ben quoi?
Il suffit pas de lire. Comment je vais savoir que c'est vraiment?
Il y a manière et manière.
Il suffit pas de lire. Hein. Mais émettre.
Non.
Qui c'est qui va me dire que c'est Béhémet?
Béhémet, ça veut dire avec la Torah.
Oui, mais
c'est la Torah qui explique comment je parle à Dieu.
C'est ce que je fais avec la Torah.
Exactement. Donc ça marche.
Comment je vais être sûr que c'est Béhémet, qu'elle est exaucée, qu'elle est acceptée?
Non, encore une fois. Béhémet, ça veut pas dire que je le fais vraiment. Parce que qui dit que je le fais vraiment, sincèrement, c'est pas ça ce qu'elle veut dire. Béhémet, ça veut dire avec le Hémet. Je l'appelle avec le Hémet. Je l'appelle avec des mots qui sont vrais. C'est quoi les mots qui sont vrais? Les mots qui sont vrais, c'est la Torah.
Monsieur Benita, il attend une réponse. Est-ce que Dieu va lui répondre immédiatement?
Bah non, évidemment non.
Non, mais ça va.
Monsieur Benita, Dieu ne nous doit rien.
Non, même pas ça. Quand il me dit il faut lire la Torah Béhémet, toute la journée on lit la Torah.
Monsieur Benita, toute la journée vous avez lu la Torah aujourd'hui, c'est ça? Toute la journée vous avez lu la Torah?
Non, c'est une image. Bon, voilà, là maintenant.
Toute la journée il est dit, hein.
Comment on va dire que c'est Béhémet maintenant?
Parce que maintenant, vous parlez à Dieu au travers un texte de la Torah.
Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il t'écoute, pour que ça soit Béhémet? Qu'est-ce que je dois faire?
Ça veut dire comme ça, monsieur Benita. Ça veut dire que lorsque je parle à Dieu, sans passer par la Torah, on ne sait pas qui a appelé Dieu. D'abord, on ne sait pas est-ce qu'on a donné le bon nom, et on ne sait pas qui a appelé Dieu. Est-ce que c'est mon âme qui a appelé Dieu? Est-ce que c'est mon corps qui a appelé Dieu? Est-ce que c'est ma bouche qui a appelé Dieu? On ne sait pas qui a appelé Dieu, on ne sait même pas si tu as eu le bon nom. Par contre, lorsque tu étudies la Torah, et lorsque tu utilises un mot de la Torah, un mot de la prière, un mot qui a été prévu par Dieu, il y a deux choses. D'abord, à ce moment-là, c'est ton âme qui parle, number one. Et numéro deux, tu as le bon nom. Quand tu as le bon nom, tu as le bon code. C'est tout, c'est pas compliqué. Il dit ici. Ve'en emet, et la Torah, on va prendre les mots rabotai, parce que je voudrais terminer. Ve'en emet, d'accord, page 162. Ve'en emet, et la Torah. La vérité, c'est seulement la Torah. Et là, l'Admor HaZaken explique comme ça. L'Admor HaZaken explique dans son livre la différence qu'il y a entre appeler Dieu Rabotai, au travers d'une prière, et appeler Dieu au travers de l'étude. Lorsque j'appelle Dieu au travers d'une prière, je fais appel, Rabotai, à une qualité spécifique de Dieu, par exemple. Exemple très simple. Imaginez, par exemple, que je fais une prière, et dans ma prière, je vais avoir une kavana spéciale, une intention particulière, dans la prière qui parle de la guérison des malades. Vous me suivez? Je reprends.
On essaye.
Allez. Respirez bien. Voilà. Imaginez que je fais ma prière tout à l'heure et que dans ma prière, dans la partie de la prière, dans la bénédiction qui va parler de la santé, je vais avoir une kavana particulière, une pensée particulière pour un proche qui est malade pour le guérir. Très bien. Maintenant, lorsque je vais avoir une pensée pour ce proche, lorsque je vais appeler Dieu à ce moment-là, quelle partie de Dieu je vais appeler? Vous me suivez?
Son être.
Non. Quand je fais la tefila, je fais appel à une qualité spécifique de Dieu. Par exemple, je fais appel à la capacité de guérir, à la capacité de comprendre, à la capacité. Ça veut dire que dans la prière, même la prière, c'est pas au niveau de la Torah. Parce que la prière, même si dans la prière j'appelle Dieu, qu'est-ce que j'appelle dans Dieu? J'appelle un aspect spécifique de Dieu. Alors que dans la Torah, chaque mot de la Torah que je lis, mon âme appelle Dieu. Dieu dans sa globalité, Dieu dans son essence. C'est pour ça que l'étude de la Torah, c'est exceptionnel, exceptionnel.
Chaque verset de la Amida, il y a par exemple.
Non, c'est faux. Parce que dans l'Amida, j'appelle une caractéristique spécifique de Dieu. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des bénédictions distinctes. Parce que chaque fois, j'appelle autre chose.
Mais il y a quand même son nom.
J'appelle le guérisseur, j'appelle celui qui donne la parnassa, j'appelle. Mais quand j'étudie la Torah, chaque mot de Torah, j'appelle Dieu. Comme un fils qui appelle papa. Il dit pas banquier, il dit pas celui qui donne la nourriture, il appelle papa, c'est tout. Okay. Il appelle pas taxi, il appelle papa.
Alors pourquoi j'ai besoin de faire la tefila? J'ai pas besoin uniquement d'être.
Parce qu'il y a deux choses, parce que dans la Torah, c'est ce qui se passe en coulisses, mais c'est pas forcément ce que je ressens. Alors que dans la prière, je le ressens plus. Donc il faut un peu de tout. Il faut une prière dans laquelle je sens que je fais appel à des qualités spécifiques, et il faut aussi en coulisses que quand je fais une étude, j'appelle Dieu, mais je le sens pas. C'est la question de M. Benita, je le sens pas. Bien sûr. Quand on appelle papa, on appelle Dieu. Et c'est qui? C'est plus fort que tout. Ve'en emet et la Torah de'ainu shekore la kadosh baruch hu al yede haTorah davka. Ça veut dire que il y a une qualité particulière lorsqu'on lit les mots de la Torah. D'ailleurs, vous savez, si vous lisez une page de Gemara et que vous comprenez pas, et que vous n'essayez même pas de comprendre, vous lisez comme ça bêtement. vous n'avez pas accompli la mise à étudier la Torah, parce qu'il faut chercher à comprendre. Par contre, vous prenez un texte de Chumash, et vous lisez, même si vous ne comprenez rien du tout, vous faites déjà la mitzvah. Comment ça se fait? Quelle différence? Propre le Chumash, même si j'écoute à la vitesse où on va, tu peux pas comprendre, d'accord? À la vitesse où on va, celui qui est pas habitué, il comprend pas. Et donc, on te dit, quelle mitzvah il a fait? Il a même pas compris. Parce qu'on te dit que dans la Torah écrite, il y a deux choses. Dans la Torah orale, il y a une seule chose. C'est l'étude, donc il faut comprendre. Mais dans la Torah orale, il y a deux choses. Il y a le fait que tu étudies quelque chose, que tu comprends. Mais il y a aussi le fait que tu lis. Le fait même de lire un mot de Torah. Vous prenez une Bible, juste vous lisez les mots de Torah. Le fait même de lire, c'est déjà quelque chose. Le fait même d'entendre quelqu'un qui lit la Torah ou lire la Torah, t'as déjà fait quelque chose, t'as déjà appelé Dieu. C'est tout. Ça, ce que je vous dis, c'est exclusivement pour les cinq livres du Chumash. Vous trouverez pas ça dans le reste de la Bible, vous trouverez pas ça dans la Gemara, dans une Mishnah. Il y a une puissance particulière dans le Chumash, dans les cinq livres de la Bible, cinq livres du Chumash, du Pentateuque, du Chumash. Ces cinq livres du Chumash, il y a une force particulière dans les mots. Le fait même de lire le mot, tu appelles Dieu. Les Tehillim, c'est fort aussi, même si on comprend pas, mais c'est pas aussi fort. Il y a rien qui est aussi fort que le Chumash. Pourquoi? Parce que quand tu lis le Chumash, c'est comme si tu t'appelais à Kadosh Baruch Hu. Le apuke mi shekore oto shelo lede sekatora, et la tsoekach abba abba. En fait, quand tu étudies une autre partie de la Torah, la Gemara, du Tanya, ce qu'on fait maintenant par exemple, t'appelles, tu essaies de comprendre une facette spécifique de Dieu, mais c'est pas Dieu. Mais quand tu prends un Chumash, c'est pour ça que c'est très important d'étudier tous les jours un petit Chumash. Très très important pour la Neshama, d'étudier tous les jours un peu de Chumash. Parce que quand tu étudies le Chumash, c'est comme un enfant qui appelle, qui dit papa, papa. Vous savez, c'est très important ça. Des fois, tu as des enfants, ils prononcent pas le mot papa. Ça veut dire qu'il va appeler son père, il va lui poser des questions, il va lui demander ci, il va lui demander ça. Il va faire appel à différents aspects de son père. À l'aspect intellect de son père, à l'aspect monnaie de son père, à l'aspect fric de son père, à l'aspect taxi de son père, à l'aspect tout ce que vous voulez. Mais il va pas dire papa. Papa. Et d'ailleurs, toute personne qui est père ici sait de quoi je parle. Quand un enfant il t'appelle papa, ce que ça fait, papa. C'est papa, ça veut dire qu'il a pas appel à ton essence, c'est papa. Ben, c'est la même chose. Quand, d'ailleurs, c'est papa, c'est un mot qu'on trouve pratiquement dans toutes les langues, hein, papa. Et d'ailleurs, vous savez que c'est le papa. La Gemara dit que dès qu'on commence à manger le blé ou ce qui est à base de blé, comme un gâteau, etc., c'est à ce moment-là que l'enfant il commence, le premier mot que on dit, c'est papa. Abba, papa, abba. Partout, dans toutes les langues. Le premier mot qu'un enfant il dit, c'est quoi? Papa. Premier mot. Parce que c'est très très profond, ça. Après, il va apprendre à faire appel à différents aspects de son père. Il va apprendre à faire appel à ça, à ça, à ça, à ça. Mais le premier mot que l'enfant va sortir, c'est quoi? Papa, maman. D'accord? Ça veut dire, c'est les mots qu'il dit. Il appelle pas une caractéristique spécifique. Il appelle tout son papa. Toute sa maman. Ce qu'il dit ici. Et ça, c'est ce qui se passe. Ça, c'est ce qui se passe. Comme Monsieur Benita, on est dans les coulisses, là. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe lorsqu'une personne lit la Torah, lit le Chumash. En lisant le Chumash, on appelle Dieu. C'est pour ça, Rabotai, quand vous lisez le Chumash, même si vous comprenez pas l'hébreu, faites un effort de lire le Chumash, ou au moins d'écouter quelqu'un qui lit le Chumash. Très, très important. C'est-à-dire, des fois, je vois des gens, ils prennent un Chumash, et ils regardent le français directement. Ils tapent directement en français, ils regardent pas l'hébreu. Bon, il y a d'autres livres dans lesquels on dit, bon, il y a du français, tu regardes le français, t'es pas encore allé regarder l'hébreu, d'accord, on veut bien. Mais le Chumash, faut pas réfléchir comme ça. Le Chumash, faut le lire aussi. Même si tu comprends pas en hébreu. Après, t'as le français à côté, tu vas voir la traduction. Mais c'est très important de lire l'hébreu. Lire l'hébreu. Ou au moins, même, quelque part, même lire la traduction de l'hébreu, c'est déjà pas mal. Mais lire. Lire avec ses mots, parce que quand tu lis pas seulement avec tes yeux, quand tu lis avec ta bouche, c'est comme si que ton âme est en train de dire, papa, papa. Et d'ailleurs, c'est pour ça, hein, ce qui continue ici. Hein. Maintenant, on comprend beaucoup mieux ce qui est écrit dans le psaume du Hacheré. Karov Hashem lechol korav. Dieu est proche de tous ceux qui l'appellent. Comment tu l'appelles? Encore faut-il avoir le bon nom. Lechol Hashem ikraou behemet. Tous ceux qui l'appellent behemet avec la Torah qui est emet. Et d'ailleurs, c'est ça ce que dit le prophète. Le prophète dit. Kumoshi Kovel Elav Anavi, page 162 en bas de la page. Ou Kumoshi Kovel Elav Anavi. Et c'est d'ailleurs, c'est de ça que veut parler le prophète. Le prophète Isaïe. Lorsque le prophète Isaïe va passer un sermon, on va dire ça au peuple, il dit, Ve'en Kore Beshimcha. Très intéressant. Il dit, personne t'appelle par ton nom. Qu'est-ce qu'il veut dire? En général, on dit, personne t'appelle. Pourquoi il dit personne t'appelle par ton nom? Qu'est-ce qu'il veut dire en personne t'appelle par ton nom? On aurait dû dire personne t'appelle. D'accord? Mais pourquoi on dit personne t'appelle par ton nom? Ça veut dire que les gens, ils appellent, mais ils appellent pas Dieu. Ils appellent, ils vont dire des noms, ils vont croire qu'ils font des choses. Ils appellent pas. Par exemple, des fois, tu vas voir quelqu'un, tu vas lui dire, est-ce que t'as mis les tefilines aujourd'hui? Il va dire non. Il dit, pourquoi tu peux pas les tefilines? Il dit, moi, je suis juif dans le cœur. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'exemple d'un juif qui appelle Dieu, mais qui sait pas l'appeler. C'est ça que dit le prophète. Le prophète dit, tu t'appelles pas Dieu par son nom. Tu l'appelles, mais pas par son nom. Imagine que David est devant moi, je t'appelle Bernard. Tu vas répondre? Tu peux pas répondre, je t'appelle pas par ton nom. Alors, c'est vrai que, un bon père, il comprend ce que son fils dit, même s'il l'appelle par son nom. Mais concrètement, il faut l'appeler par son nom. Enkoreb Shimra. Ça veut dire que toute la Torah, c'est les noms d'Akadosh Baruch Hu. Il faut passer par la Torah.
Quand tu appelles quelqu'un par son nom, tu attires son attention.
Quand tu appelles quelqu'un pas par son nom, tu fais appel à un aspect spécifique. Mais quand tu appelles quelqu'un par son nom, tu appelles toute la personne. Oui. Tu appelles toute la personne.
Mais là, en l'occurrence, il a plusieurs noms. Alors, c'est lequel?
Eh bien, justement. N'importe lequel. Si je m'adresse à un aspect de Dieu, je m'adresse à lui, dans ce cas-là, je fais appel à un aspect spécifique de Dieu. Mais quand j'appelle Dieu, je dis pas, Dieu, donne-moi ta miséricorde. Je dis, miséricorde! Miséricorde! Qu'est-ce que Dieu répond? Me voici. Et c'est pas la miséricorde qui me dit, me voici la miséricorde. C'est Dieu qui répond, me voici tout court. Tu m'as appelé par un de mes noms, hop, c'est passé. Tu peux l'appeler par là, peu importe. J'appelle Akadosh Baruch Hu. Et là-bas, le prophète, il dit que toute la Torah, c'est les noms d'Akadosh Baruch Hu. Il donne un exemple. Il dit, c'est comme une personne qui est devant un fleuve et qui est en train de crier, de l'eau! De l'eau! De l'eau! Mais c'est devant toi, l'eau.
Je suis là.
Je suis devant toi, mais appelle-moi. C'est-à-dire que le bonhomme, il est là, il dit de l'eau, j'ai pas d'eau, mais c'est devant toi, le devant toi. Mmh. C'est la même chose. Il te dit, une personne qui veut s'attacher à Dieu, mais qui passe pas par la Torah, c'est comme une personne qui hurle de l'eau, mais qui ne prend pas l'eau qui est en face de lui, on t'a donné de l'eau. Tu veux boire? T'as une chama, elle a soif, elle veut boire. Qu'est-ce que tu vas lui donner des trucs en Thaïlande et je sais pas où? Elle est devant toi, l'eau. Baisse-toi, prends l'eau, tu vas voir, c'est la Torah. Mmh. Ouais, dis, ah, mais ça sert à rire. Mais c'est ça, l'eau. Mais tu peux passer à côté. Comme c'est expliqué dans un autre endroit, c'est qu'il te dit qu'en vérité, Dieu il t'a donné le mode d'emploi. Tu achètes un micro-ondes, d'accord? Dans le micro-ondes, t'as donné un mode d'emploi. On te dit, pour démarrer, t'appuies là. Pour éteindre, t'appuies là. Tu veux gris, c'est ici. Tu veux cuisson, c'est ici. D'accord? Tu veux rafraîchir, y a pas un micro-ondes, c'est ici. Tu veux chronomètre, c'est ici. Maintenant, toi, tu vas commencer à dire, non, mais moi, je veux pas avoir. Moi, je veux allumer en appuyant le bouton qui veut éteindre. Tu veux faire le malin, fais le malin. D'accord? Vas-y. Moi, je veux pas le brancher comme ça. Moi, je veux pas envie de le brancher avec la prise, je veux brancher avec autre. Bah, tu veux faire le malin, fais le malin. Ça va sauter, ça marche pas. Faut faire le jeu tel qu'on l'a donné. D'accord? Tu vas prendre le permis. D'accord? Tu vas prendre le permis, tu vas dire, voilà, on va te dire, l'accélérateur, c'est à droite. Le frein. D'accord? C'est à gauche. D'accord? Bon. Maintenant, il va dire, moi, je veux pas. Moi, je suis gaucher, je vais accélérer avec la gauche. Moi, je veux pas. Je vais accélérer avec la gauche. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, papa, il y a un mode d'emploi. D'accord? On s'en fiche de ce que tu penses. Il y a un mode d'emploi, il faut suivre le mode d'emploi. Tu veux conduire une voiture, à droite ça accélère, à gauche ça freine. Même si t'es gaucher, ça changera pas.
C'est pas grave, tu prendras 200 leçons.
Ben oui, bon. C'est tout. C'est bon pour vous, ça. Maintenant, il prend la boîte à vitesse. Il dit, moi je veux la cinquième. Sinon, tu l'auras. Essaye, tu vas caler. Oui. Mais là, il est pas d'accord. Eh oui, il va caler. Donc, tu peux dire quoi? C'est-à-dire, tu prends quelque chose, il faut suivre le mode d'emploi. Et ben, de la même façon, Akadosh Baruch Hu nous a donné un mode d'emploi. Il a dit, tu veux m'appeler, tu veux t'attacher à moi, ça passe par un mode d'emploi. Le mode d'emploi, c'est l'étude de la Torah. Le mode d'emploi, c'est les mitzvot. Le mode d'emploi, il est très clair. Il est écrit, le mode d'emploi. Alors, tu veux faire le malin? Tu veux dire, non, mais moi, je suis plutôt artiste, je n'appelle pas comme ça, j'ai trouvé des méthodes alternatives. C'est à la mode, alternative, tu vois. On te dit, vas-y. Cours toujours. Peut-être que tu vas attraper quelque chose. Mais t'es à côté de la plaque. T'es en train de crier de l'eau, alors que l'eau est en face de toi. Tu te dis, mais je vais courir. C'est-à-dire que le bonhomme, tu vois, il a un fleuve devant lui. Mais il va creuser dans le sol pour trouver une goutte d'eau en bas. Il va dire, ah, j'ai trouvé une goutte d'eau. On dit, mais Khmar, t'avais un fleuve devant toi. Et t'es tout heureux d'avoir trouvé une goutte en dessous de toi. Khmar, t'es bête ou quoi? Il dit, mais j'ai trouvé une goutte. T'as vu, il y avait une goutte. Il dit, mais t'avais un fleuve. T'as un fleuve en face de toi. Qu'est-ce que t'es en train de chercher des méthodes alternatives? Tout est devant toi. Dieu, il t'a donné comme un shulchan aruch, comme une table dressée devant toi. Il t'a tout donné. Et c'est pour ça que là-bas, le prophète Isaïe, pour les Tunisiens, chapitre 55, hein, le prophète Isaïe, il dit comme ça, il dit, « Oi, kol tsamé, lechou lamaïm !» Celui qui a soif, mais qu'il aille vers l'eau. De qui il parle? Il parle là-bas de gens, de juifs, qui étaient à cette époque-là, qui disaient, on a soif de spiritualité, etc. Vous avez soif? Allez prendre de l'eau. C'est quoi l'eau? L'eau, c'est la Torah. C'est devant vous. Il y a un mode d'emploi. Et quand chaque mode de la Torah que vous lisez, vous appelez Dieu. C'est pour ça que quand on vient à un cours de Torah, ça fait un bien fou. Sans que la Neshama, elle boit. Des fois, je vois des gens qui viennent au cours de Torah, je sais qu'ils n'ont rien compris au cours. Ils n'ont rien compris. Tu te regardes comme ça. Si je le connaissais pas, j'aurais dit c'est un Mongol. Excusez-moi. D'accord. Mais qu'est-ce que tu me regardes comme ça? T'as rien compris à ce que j'ai raconté. Mais tu dis, mais qu'est-ce que tu me regardes comme ça? Mais non, parce que quand il a rien de venir à un cours de Torah, sa Neshama, elle boit. Combien de gens que je vois comme ça qui viennent, ils sont attirés comme un aimant. Parce que leur Neshama, elle boit. Maintenant, celui qui veut chercher une méthode alternative, tant pis pour lui. Et c'est ça ce que veut dire le prophète Isaïe quand il dit, Ve'en Kore Beshimcha. Personne t'appelle par ton nom. Ça veut dire, les juifs, ils vont être là, ils vont t'appeler, mais pas par ton nom. T'as donné les méthodes, pourquoi ils suivent pas tes méthodes? C'est de ça que se plaint le prophète. Alors, maintenant qu'on a compris ça, dit ou misé, et de ça, de tout ce qu'on a expliqué, id bonen amaskil, celui qui sait réfléchir et qui veut réfléchir, il va réfléchir, le hamshir alav irag dola beshat esek haTorah. Si on réfléchit à tout ce qu'on vient de dire, normalement, on devrait trembler quand on étudie la Torah. Ouais. Bah oui, parce que maintenant qu'on comprend, les gens, des fois, on voit des gens trembler pendant la prière. La prière, on le voit, des fois, on sent que c'est un moment d'effervescence. Pendant un cours, en général, on est plutôt relax. On est relax. Quand on étudie, bon, c'est un moment relax. On est là, il y a des chips, il y a des biscuits, bon, voilà. On peut manger. On est relax. Je dis, mais quand tu réfléchis à ce qu'on vient de dire, qu'en vérité, c'est beaucoup plus fort quand tu étudies la Torah, que quand tu étudies la Torah, tu appelles Dieu. T'es en train d'appeler Dieu. T'imagines le bonhomme, il est en train d'appeler Dieu, en même temps, il mange des chips. Je dis pas que c'est interdit, hein, manger en bonne santé, y a pas de problème. Mais tu imagines, si tu dis, mais attends, j'appelle Dieu, en même temps, je mange. Non mais, t'imagines que comment c'est incompatible. Et c'est ce qu'il veut dire ici. Tu dis que le but n'est pas de nous angoisser. Le but est de nous montrer l'impact, l'importance qui se passe quand on étudie la Torah. Quand on étudie la Torah, on appelle à Kadosh Baruch Hu. Et donc, c'est pour ça que c'est très très important. Alors, maintenant, voilà la question que plusieurs ont posée. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? L'étude ou l'action? On te dit, voilà, l'essentiel, c'est l'action aujourd'hui. Mais sache qu'il y a une très très grande qualité dans l'étude, la qualité qu'on a développée cette semaine et la semaine dernière, que quand tu étudies la Torah, d'abord, tu donnes ton moi à Dieu, ton moi qui est ton cerveau. Et en plus, le ridouche aujourd'hui, quand tu étudies la Torah, tu appelles Dieu par le vrai nom, pas par le faux nom. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est unique. Donc, c'est pour ça que quand on réfléchit à ça, on réfléchit et on comprend l'importance de l'étude de la Torah, toute la Torah. La Torah écrite, la Torah orale, le Tania, le Chumash, la Gemara, tout ce que vous voulez, en particulier le Chumash. C'est pour ça que, si vous ne le faites pas encore, c'est vraiment fortement préconisé, tous les jours, d'essayer d'avoir un peu de Chumash. Si vous n'arrivez pas tous les jours, essayez au moins une fois par semaine, de prendre un Chumash, de lire. Avec la traduction, aujourd'hui, il y a des Chumash et des traductions, de lire le Chumash. Vous allez voir le bien que ça fait à votre Neshama, lire le Chumash. Lire le Chumash. Quand vous lisez le Chumash, bah après vous allez dire qu'on vient à la synagogue, on lit la Torah le Shabbat à la synagogue, c'est vrai, c'est déjà ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on lit la Torah. On lit la Torah pour que la Neshama écoute ce qui se passe. Même si on ne comprend pas ce qui se dit, c'est pas grave. La Neshama, elle a écouté quand on a appelé Dieu, donc elle a appelé Dieu elle aussi. C'est extraordinaire. Et donc, c'est ça qu'on doit retenir, l'importance de l'étude de la Torah et l'importance de la Torah écrite. Donc, comme on a dit, il faut un petit peu des deux. Et Bezrat Hashem, comme on est les deux, on arrivera à aller très très loin. Et ça nous amène, Bezrat Hashem, ce qu'on verra la semaine prochaine. Chapitre 38, d'accord? Chapitre 38, on va expliquer l'importance de faire la Torah par la parole. La parole. Dibour. Pourquoi Dibour, d'Afka? Pourquoi par la parole? Ça, c'est encore un autre thème, mais je laisse ça pour la semaine prochaine. Bezrat Hashem.
Ah, vite. Des questions?